Je laisse Marie-Christine pour vous dire tout sur la fête, un peu sur l'icône. Et après, comme d'habitude, vous êtes invité à mettre des questions, si vous avez des questions sur la thème qu'on va présenter. Oui, donc, je vous laisse.
Oui, on garde toujours la relation et les questions. Oui, je parle fort. Mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai des gens là et des gens là. Et si je regarde au milieu, ça va pas bien.
Si,
ça va. Bon, je vous regarde, monseigneur. Je vais m'appuyer encore une fois sur ce que vient de dire tout à l'heure Père Roger, par rapport à Grégoire Palamas, qui nous demande de vivre l'expérience de la relation au Seigneur. Eh bien, l'icône est vraiment parfaite pour cette relation au Seigneur. Elle nous montre le chemin pour aller vers lui. Voilà, donc c'était le petit lien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Rencontre, puisque c'était la fête de la Sainte Rencontre le 2 février. Et cette Sainte Rencontre, qui est la rencontre du Seigneur avec Père Siméon, s'appelle aussi l'Hypapente, parce qu'elle a lieu 40 jours après la naissance du Christ. Donc, elle représente l'alliance entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui est symbolisée par Marie avec le Christ et Siméon qui est l'ancienne alliance puisque lui il a attendu vraiment de mourir pour rencontrer le Christ et il fait ce lien. Cette rencontre, cette sainte rencontre, c'est vraiment la nouvelle alliance qui rencontre l'ancienne alliance et ça se passe devant l'autel et ici nous avons le temple et l'église et ici le voile de l'Esprit-Saint et de l'Alliance, et l'autel ici. Et Marie qui arrive et qui présente à Siméon. Tous les soirs pour les Vêpres, on parle, on dit, et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Et c'est Siméon, ce sont les paroles de Siméon, qu'il dit que maintenant qu'il a vu le Seigneur, maintenant qu'il a vu la nouvelle Alliance, il peut mourir en paix. Dans cette rencontre, on peut aussi voir que nous-mêmes, quand on va à l'Eucharistie, on est aussi dans ce mouvement, puisque l'hypapente veut dire aussi aller vers, aller à la rencontre. Donc on est dans ce mouvement de rencontre avec le Seigneur qui arrive jusqu'à l'Eucharistie. Donc voilà, toute cette icône représente ceci. Alors sur cette icône, donc vous pouvez voir, je la tournerai, donc Marie, qui a les mains tous les deux, Marie et Siméon, ont les mains recouvertes par des voiles, des manteaux, en signe de respect. Et l'enfant Jésus est porté de Marie à Siméon qui l'accueille. Derrière Siméon, très souvent, il y a Sainte Anne, la prophétesse. Et ici, il y a Joseph qui tient, lui aussi en signe de respect puisque ses mains sont voilées, les colombes qui représentent le don de la purification. Puisque, en fait, ce qui est très beau, c'est que le Christ, il est vrai Dieu, vrai homme, et là, il obéit complètement à la loi de Moïse. Il se soumet à la loi humaine de purification pour entrer dans le temple. Enfin, la purification, c'est Marie, c'est pas lui. Voilà. Donc, ça, c'est important de bien sentir à quel point, à ce moment-là, le Christ rentre dans l'humanité, obéit aux lois humaines d'incarnation. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur ça? Donc les textes qui sont relatifs à la Sainte Rencontre sont dans Saint-Luc 2. Je peux vous lire le texte qu'on appelle le Luc Dimittis. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Voilà, ça ce sont les paroles de Siméon. Alors, en reprenant un petit peu l'explication sur l'icône. Donc le temple, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, je vous l'ai dit. Le sacrifice de l'autel, donc ça je l'ai dit. Au niveau des icônes, celle-ci donc est une icône récente, il y a plusieurs modèles d'icônes. Il y en a deux comme ça. Mais c'est toujours, toujours, toujours les quatre mêmes personnages. Mais le temple ou l'église peuvent être représentés un petit peu différemment. Ça peut être, voilà. Des fois, Anne, la prophétesse, elle est à côté de Joseph. Mais ça peut prêter à confusion. Et à ce moment-là, effectivement, on voit à côté Joachim, parce qu'on confond. Et c'est pas très... Enfin, normalement, il ne doit pas y avoir ce personnage. Mais bon. Voilà. Là, elle est là aussi. Elle n'est pas derrière Simon. Vous pourrez regarder ces reproductions. Ici, il y a quelque chose de... Elle est très belle, celle-ci. Elle est récente, mais on voit bien, vous pouvez vous la faire circuler. Comment ils se rencontrent pour circuler cette rencontre. On la voit très bien là. Comment Simeon et Marie s'inclinent devant le Christ et sont complètement dans cet accueil, dans cette rencontre que l'icône propose. Alors, est-ce que j'ai raconté tout ce que je voulais raconter? J'ai l'impression que j'ai tout sauté. Donc, la Vierge, elle obéit aussi donc, à la loi qui existait à l'époque. Elle accomplit l'offrande de son fils premier-né, puisque à l'époque, l'offrande du fils premier-né, c'était pour l'Église. Donc, elle obéit aussi à cela. Le juste Joseph, représenté plus jeune que de coutume, suit la Vierge en portant dans ses mains couvertes les deux colombes prescrites pour le rachat de l'enfant consacré à Dieu. Ces colombes ont revêtu le sens des deux alliances. De nouveau, là, on retrouve la notion de l'alliance. Là, ici, c'est les Juifs et les Gentils. Et ensuite, donc, Siméon. Le Christ, il porte le rouleau, donc le rouleau de la loi, et il est écrit sur ce rouleau, « On ne m'ôte pas la vie, je la donne de moi-même. » Et donc, c'est complètement le mystère où nous sommes conduits par l'Esprit afin que, passant par le même baptême, nous participions à la nature divine. Je ne vais peut-être pas faire plus long. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, Samuel? Oui, vers vous, pardon. Voilà. Puis peut-être faire passer aussi les reproductions.
Mais la prophétesse qui nous donne aujourd'hui, c'est la mère de
la Vierge. Non, je ne crois pas. Normalement, non. La prophétesse, Anne, n'est pas la mère de Marie.
D'accord.
Je ne sais pas si... Monseigneur, est-ce que normalement la prophétesse Anne n'est pas la mère de Marie? C'est une autre personne. Hein? Tout à fait.
Elle était veuve.
Voilà, elle était veuve, tout à fait. Elle avait eu que 5 années de mariage. Voilà, la prophétesse Anne désigne du doigt le libérateur de Jérusalem. Souvent placée derrière Siméon et de profil, Anne peut aussi être placée, mais c'est pas écrit là. Non, c'est pas à cet endroit où c'est écrit, où elle a vécu très peu de temps mariée. Voilà, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge, après avoir depuis sa virginité vécu 7 ans avec son mari. Elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, ce n'est pas du tout Anne, la mère de Marie. Alors, qui c'est qui a des questions?
J'aurais une question, mais ce n'est pas lié à l'icône précisément. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, pas en 5 minutes, parce que c'est difficile, mais la différence entre une icône véritable et puis, vous l'avez déjà dit.
Mais au début, on a commencé par ça. Voilà, on a un petit peu...
Parce que là, on a l'icône canonique et puis on a devant nous des choses enfin, derrière.
Ah
voilà.
Mais ça,
c'est
parce
pas que
des
parfois il y a des gens qui ignorent la différence. Qui
mais on a commencé le cycle de conférences par ça.
C'est vrai que là vous avez vraiment de quoi
oui,
parler.
Là, mais ça c'est pas des icônes de
justement.
Donc là c'est pas.
Mais pourquoi en fait mais vous l'avez déjà dit donc ça va.
Non mais je peux reprendre parce que de toute façon Père Roger m'avait demandé à chaque fois de reparler un petit peu de ça. Alors là comme on est je ne voulais pas trop déborder, mais je peux tout à fait repartir de ça. Donc, l'icône canonique obéit au canon iconographique et n'est pas une représentation religieuse. L'icône fait partie intégrante de la liturgie, elle nous permet d'entrer en relation avec Dieu, elle nous permet d'entrer dans la prière avec le Seigneur. Alors qu'une reproduction, enfin, un tableau, même s'il est vrai et tout religieux, ne va pas du tout remplir cet office. On avait parlé de ça.
On a vu aussi qu'un tableau religieux se communique plutôt avec notre affectivité.
Voilà.
Essaye de nous sensibiliser d'une manière affective. Tandis que l'icône nous demande un peu de concentration très forte, un peu de sobriété, pas affectivité.
On avait pas
seulement
voilà concentration, ça peut être la tête, alors je me méfie du mot, mais c'est surtout intériorisation et accueil. On avait vraiment parlé que la relation devant l'icône est une relation d'accueil, d'écoute, donc de s'effacer pour accueillir l'icône. Voilà le principe vraiment de l'icône, c'est que c'est la laisser rentrer en nous. Et là, elle va faire toute sa relation avec vous. Alors qu'un tableau religieux, c'est une projection de vous vers l'extériorisation, vers quelque chose qui est extérieur à vous. Qui est vraiment, l'iconographie, c'est vraiment tout ce chemin d'aller à l'intérieur de soi. Donc, une vraie icône, une bonne icône, une icône qui vous parle, est une icône qui va vous mettre en relation avec vous, avec votre partie intime, votre partie divine, qui va vous faire contacter en vous le Christ. C'est ça la relation d'une icône. Une vraie icône, c'est ça qu'elle fait.
Il y en a sur l'icône où le Christ est minuscule par rapport à la mère. Vous avez une icône proportionnelle.
Oui, par exemple, là, il est tout petit.
Le Christ est tout petit. Est-ce qu'il y a un sens positif ?
Non. Après, il y a le... Non. C'est un bébé, c'est sûr, il a 40 jours.
Oui, mais...
Oui, mais là, il y a... Enfin...
Parce que, est-ce que c'est pas l'humilité ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça à cet endroit-là. On peut le dire, mais je ne sais pas si c'est juste. Ce qui est sûr, c'est qu'en particulier sur celle-ci...
Oui, c'est sur celle-là.
Voilà, en particulier, c'est évident que l'iconographie de cette époque-là fait des personnages très longs. Et que cette hauteur ne peut pas, on peut pas la représenter sur un bébé, ça me paraît difficile. Hein? Il y a d'autres personnes qui sont choquées parce que le Christ est tout petit.
Mais je me souviens que j'ai brodé cette icône, mm-hmm. Et je ne connaissais pas que c'était la première chose que je lui ai montrée. Mm-hmm. Je l'ai fait pour l'enfant, et il a éclaté de rire. Et puis alors je suis comme une chute. Et puis après, je me suis aperçue qu'effectivement l'enfant était minuscule.
Mm-hmm. Et pourquoi il a claqué de rire, il vous l'a dit ?
Il m'a pas expliqué, je
Bon, mais moi, j'ai pas d'explication par rapport à ça.
C'est un petit mot ?
Oui.
La vision de
peut-être.
Pardon. Oui, mais en même temps, tout à l'heure, qui c'est qui a parlé d'humilité ? C'est vrai, mais on peut dire ça, mais c'est vraiment aussi mais tout enfant, tout bébé, c'est un bébé. Donc, il est vraiment... offert, ça peut aussi humilité c'est juste, mais un bébé de 40 jours, on ne va pas parler d'humilité, par contre d'offrande, oui, c'est pas tout à fait la même d'offrande,
oui. Je crois que c'est un point assez important parce que là on touche le caractère propre de l'icône, parce qu'on touche aux proportions, et là justement il y a beaucoup d'autres icônes, on retrouve ce domaine là. Justement, il ne s'agit pas des proportions de la réalité. Je pense aussi à l'icône de la dormition. On voit le Christ avec la Vierge Marie qui est toute petite, comme emmaillotée. Et ça donne un sentiment, donc il ne s'agit pas... C'est son âme, c'est aussi une interprétation. En tout cas, la représentation iconographique, dans un petit, comme une espèce de matrioshka russe, ça fait tout petit. Les proportions, c'est une espèce de rappel qu'effectivement, les proportions, ce ne sont pas les proportions de la réalité historique. Ce sont des proportions intérieures. Le fait d'avoir un Christ qui tient comme ça Marie, ou là, le Christ tout petit, il y a cette notion d'enveloppement. On retrouve le même phénomène avec, par exemple, un enfant, le Christ, qui est un visage d'adulte. Sur beaucoup d'icônes, on retrouve un visage disproportionné, qui n'est pas du tout un visage d'enfant. Et là, vous voyez tout de suite la différence avec l'image pieuse. On va, au contraire, on va représenter le petit Jésus, bébé joufflu, avec des petites boucles, dorées. Et on voit bien qu'on est sur le fil du rasoir entre quelque chose qui va vers une icône canonique et vers de la sentimentalité. Alors, ce sont effectivement des points importants. Les proportions, les traits du visage, un enfant qui a un visage d'adulte, parce que tout est rassemblé au même moment. On n'est pas dans l'historicité, on est dans l'éternité. Hein, comme Marie-Christine avait déjà rappelé régulièrement, puisqu'on retrouve ça systématiquement dans la plupart des icônes. Et les proportions, le temps, l'éternité, alors, c'est une réalité sanctifiée, transfigurée.
Je vais m'appuyer aussi sur cette question de Mère Sophia pour dire que c'est important que chacun se laisse toucher par quelque chose, par l'icône, sous forme d'une question. Par exemple, voilà, tout d'un coup, pourquoi le Christ est tout petit? Quelqu'un d'autre va dire, moi, c'est ça qui m'interroge. Donc, parce que le Seigneur, il se sert de ça. Qu'est-ce que c'est qui est interrogé en nous? Aller plus loin, on va parler effectivement, ce que tu dis est juste, mais si on veut vraiment rentrer dans cette relation et que ça soit du fruit pour nous, qu'est-ce qu'elle me dit, l'icône? Voilà, ça c'est important. Donc, voilà, je reprends cet exemple. Voilà, à moi, elle me dit, ah, oh, ben le Christ est tout petit, pourquoi moi ça me touche que le Christ soit si petit, etc. Et une autre va dire, ils sont immenses, ils sont grands, pourquoi ça me touche qu'ils soient grands? Voilà, c'est ça un chemin personnel. C'est propre à chacun, c'est intime à chacun. Il n'y a que chacun qui peut faire ce chemin-là. Et ça, c'est vraiment le travail iconographique, c'est vraiment le chemin de l'icône. Donc, je vous encourage vraiment à rester devant les icônes, à chercher cette relation, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va vous interroger. Alors, vous allez trouver des réponses, bien sûr, vous allez trouver des réponses, on en a toujours des réponses, mais en même temps, allez au-delà des réponses. Essayez de voir, voilà, moi, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut me dire, le Seigneur, à travers cette interrogation, à travers cette chose qui me touche de l'icône. Là, je pour moi, c'est... Voilà, l'icône, c'est vraiment ça.
Moi, par exemple, le fait que Jésus-Christ est si petit, peut-être est aussi une possibilité qu'il se reprenne, mais aussi une humiliation, parce que c'est, en fait, dans la relation avec Dieu, c'est nous qu'on doit se souffrir, c'est nous qu'on doit se...
Monseigneur, j'ai répondu. Après, bon, s'il y a encore des questions, mais je ne sais pas si on peut faire encore. Jean-Philippe.
Non, pas de questions, mais simplement par rapport aux proportions du Christ dans les bras de la Mère de Dieu. Cette icône fait le pendant avec la dormition de la Mère de Dieu.
Ce que disait Samuel.
Voilà. Donc là, c'est vrai que ça, cette icône renvoie toujours à l'homme.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a une iconostase, c'est pour ça qu'il y a tout un temps liturgique qui s'inscrit dans une...
Parce qu'on a parlé aujourd'hui de Saint-Denis de la Masse, et c'est tout ça, Saint-Denis de la Masse, le théologien de la lumière a créé. Je voudrais ajouter seulement une chose, vous voyez le fond, qui est toujours doré, on dit doré, c'est jaune, c'est doré. C'est toujours qui nous envoie vers de la lumière de Dieu. Voilà, même la cierge, elle n'est pas blanche. C'est presque la couleur de la lumière. Voilà, mes vêtements sont blanches, mais il y a quand même des choses qui primitent, qui envoient vers la couleur de la lumière qui est pas jaune, mais c'est doré.
Mais dans l'iconographie, l'or et la matérialisation la plus proche de la lumière incréée. L'or représente ça sur l'icône.
Oui, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Parfois, c'est des couleurs, ça peut être rouge, non, aussi.
Oui, mais l'or...
Ce qui est important, c'est que ce soit uni. Ça veut dire aussi que ce fond uni, c'est l'aujourd'hui de Dieu. On n'est pas dans le temps déchu. Je reviens aussi à ce qu'on a dit pour la différence entre le tableau et l'icône. Mm-hmm. C'est que le tableau représente le monde déchu, avec les corps soumis à la mort et au vieillissement. Mm-hmm. L'icône, c'est le monde transfiguré.
Tout à fait.
C'est l'intimité. Donc on n'est pas dans le passé, dans l'avenir, dans le présent, qui sont des éléments du monde déchu actuel de notre monde, mais dans l'aujourd'hui de Dieu.
L'éternité.
Ce n'est pas anecdotique. L'icône n'est jamais anecdotique. Mm-hmm. Jamais, jamais. Le tableau est anecdotique. Mm-hmm. Voilà les petits détails, les petits machins qui nous rapproche, nous raccroche à ce monde-ci.
Tout à fait.
L'icône, elle est au-delà de ça.
Elle est intemporelle, elle est éternelle, et elle est le monde transfiguré.
C'est vrai que l'or est la couleur qui est la plus proche pour nous, parce que là, nos pauvres moyens, nous essayons d'apporter ce que nous avons, qui est toujours pauvre, même si c'est de l'or. Mais l'important aussi que ce soit uni, que ce soit une couleur unie.
J'avais pas cette notion d'être d'uni.
Enfin, d'uni, c'est-à-dire, si on n'a pas d'or, une certaine école russe,
on fait un fond uni. Le fond est toujours uni.
C'est important.
De toute façon.
Qui est autre qu'anecdotique.
Oui.
C'est plus, on est en dehors.
Oui. Le fond est uni. Sauf en bas, si on arrive en bas, à ce moment-là, c'est la terre. Mais c'est uni quand même. Et maintenant, Seigneur, l'Esprit Serviteur s'en allait en prise.
Et en plus la prière, le chant de
tous les vêtements,
la lumière joyeuse.
Tout à fait.
Qui en voit aussi.
Notre Père de la fête, je peux le réciter. Au Père, donc, de la Sainte Rencontre. Réjouis-toi, pleine de grâce, Vierge Mère de Dieu, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu, illuminant ce qui était dans les ténèbres. Réjouis-toi aussi, juste vieillard Siméon, car dans tes bras, tu as porté le libérateur de nos âmes, qui nous permet de prendre part à sa divine résurrection. Voilà notre Père de la Sainte Rencontre.
Non, il y a plein de choses à dire.
Oui.
Là, on est. Pardon. La rencontre avec Siméon, on est en plein judaïsme. C'est pas une obsession personnelle, c'est une réalité. On est en plein judaïsme. Et c'est intéressant parce qu'on est justement la frange, c'est la reconnaissance par Siméon du Messie annoncé. Hein, c'est parce que souvent cette question de l'ancienne alliance à la nouvelle se pose et de la reconnaissance, est-ce que finalement il a été reconnu? Mais bien sûr qu'on a des exemples. En voilà un où Simon a dit: je reconnais le Messie annoncé qui est annoncé pour Israël. Et là on est en plein, voilà, effectivement l'enfant est reconnu. Est-ce que Siméon,
qui est Siméon?
Il n'est pas prêtre.
C'est
un ancien.
Il
fait pas partie des Kohanim. Des Kohanim. D'accord.
J'ai un petit texte là. Selon le protévangile de Jacques, le juste vieillard Siméon fut élu pour remplacer dans sa fonction sacerdotale le prêtre Zacharie assassiné.
C'est bien ça.
Siméon porte d'ailleurs les traits de Zacharie, mais pas ses vêtements sacerdotaux, et devient le ministre de la consécration de l'enfant au Seigneur. Il reçoit Jésus dans ses bras.
Donc il y a une reconnaissance effectivement du Messie du côté juif. C'est une réalité. cette icône rappelle ça aussi.
J'ai quelques provocations. On s'arrête ici parce qu'on a la gare et un grand petit conseil après.
Voilà, donc ça c'est... Il faut...
Oui, je vous remercie, Marie-Christine. Et on va vous annoncer pour la prochaine conférence, qui sera un peu, peut-être un peu plus...
Voilà, je reprendrai effectivement, comme on avait dit, le sens de l'icône, la relation à l'icône, etc. Et puis la prochaine fois, peut-être ce sera l'annonciation. On verra.
Maintenant, on va faire la prière pour la gare. Et ceux qui veulent se confesser, je veux rester un peu... c'est bien, parfait.
Il est où le monsieur? Il y aura beaucoup à effacer, hein,
au début.